ma démarche au départ s'ancrait dans l'histoire plutôt religieuse. Et elle visait à étudier donc le jansénisme au XVIIIe siècle dans le cadre parisien. Alors, je me suis d'abord intéressé à l'appareil militant. Pourquoi appareil militant? Parce que à quoi ressemble le jansénisme au XVIIIe siècle et qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au XVIIe? Alors, pour ce qui est du XVIIe, je pense que vous avez au moins quelques images en tête. C'est en gros Port-Royal, les messieurs de Port-Royal, Pascal, Racine, et une sorte de refus plutôt que de résistance intellectuelle à l'absolutisme. Bon, toute cette histoire, en gros, prend fin à partir au tout début du XVIIIe siècle, quand la monarchie expulse les derniers, enfin, éteint progressivement le recrutement du couvent de Port-Royal et le ruine, abat les bâtiments en 1709, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici parce que ça nous emmènerait trop loin. À ce moment-là, donc en 1709, Louis XIV tient absolument à compléter, disons, sa victoire symbolique sur le courant janséniste matérialisé par Port-Royal, par une victoire théologique en sollicitant auprès du pape une bulle qui, cette fois-ci, déterminerait précisément les critères de l'hérésie. Bon, s'en suit des discussions compliquées à Rome, mais la papauté finit par donner un texte, donc là, qui sera la bulle Unigenitus en 1713, qui définit extrêmement strictement, en plus de 100 points, toutes les propositions hérétiques qualifiées de plus ou moins de jansénistes. Alors, c'est une gaffe monumentale d'une certaine façon, parce que le texte est beaucoup trop large. Disons qu'il cible beaucoup plus que le jansénisme classiquement entendu. Et il cible beaucoup plus que ce que la monarchie française attendait en réalité, probablement. Du coup, ce texte va susciter un vent d'opposition assez fort dans le clergé français, qui marque en gros les années 1720. Cette fronde prend des aspects assez étonnants, assez moderne d'une certaine façon. Il s'agit d'en appeler à un organe traditionnel de la vie de l'Église qui est le Concile universel. Donc on rassemble tous les évêques et tous les représentants de tous les diocèses, de tous les ordres, pour juger de la catholicité de la bulle. Car évidemment, l'autorité du Concile est universelle et perçue comme supérieure à celle du pape. Et pour appeler à ce Concile, en fait, les clercs appelant, comme on va les appeler, mettent au point une sorte de stratégie pétitionnaire. D'ailleurs, c'est un jeu de signatures collectives ou individuelles de textes appelant à la réunion du Concile. Bon. Ça marque en gros les années 1720. C'est plus ou moins faible selon les diocèses français, mais c'est particulièrement fort dans le bassin parisien et à Paris. Bon, en gros, ça doit concerner assez facilement un clerc sur deux dans l'univers des paroisses parisiennes. Ça fait beaucoup. Et puis, ce mouvement va progressivement passer par contamination, par contagion directe, au Parlement de Paris, qui va, au nom d'une certaine vision de l'Église, défendre ceux qui refusent la bulle Unigenitus, et va refuser assez longtemps de la considérer vraiment comme une règle applicable à l'Église de France. Et en gros, la querelle janséniste autour de cette bulle va nourrir énormément de conflits autour du Parlement, et entre le Parlement et la monarchie, entre le Parlement et les évêques, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Pour faire vite. Quand j'ai commencé mes propres recherches, en fait, le système interprétatif de ce jansénisme du XVIIIe siècle avait été très très profondément renouvelé par en gros trois chercheurs, un Américain, Del Van Cley, qui a travaillé sur les jésuites, Catherine Mayer, qui venait de sortir donc son livre « De la cause de Dieu à la cause de la nation », et puis également Monique Cotteret, qui a beaucoup réfléchi sur les aspects culturels du jansénisme. Et ce qui ressortait en gros à ce moment-là, donc il y a bientôt 10 ans, de ces constructions, c'était que le jansénisme était interprétable essentiellement sous l'angle théologico-politique, c'est-à-dire qu'en gros il y avait des théologiens et des magistrats, comme Vincent Millot l'a dit, qui se nourrissaient plus ou moins de cette idéologie, ils en étaient plus ou moins convaincus, ça emportait plus ou moins un système de croyances janséniste, rigorisme et compagnie avec, mais c'était avant tout lisible sous l'angle politique. Donc moi j'ai commencé à travailler sur le jansénisme uniquement parce que j'avais trouvé la possibilité d'une certaine façon d'étudier l'appareil militant. L'appareil militant, cette boîte à perrettes, c'est une sorte de caisse de solidarité donc qui fonctionne sur le principe de quête auprès des fidèles. Caisse qui permet ensuite de verser de l'argent pour des bonnes œuvres, un journal qui défend la position des appelants, un journal clandestin qui s'appelle Les Nouvelles Ecclésiastiques, enfin clandestin, semi-clandestin en réalité. Donc il faut payer les imprimeurs, la rédaction, le papier, un peu les rédactions, les rédacteurs. Également verser des pensions ou assister les prêtres jansénistes ou appelants qui auraient été chassés de leur poste par leur évêque, leur supérieur hiérarchique ou n'importe quelle autorité. Donc j'ai commencé à vouloir étudier cet appareil-là qui permettait donc aux appelants de maintenir une présence sur la scène politique et publique jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, en gros. Les nouvelles ecclésiastiques paraissent jusqu'au tout début du XIXe siècle. C'est pas très diffusé comme journal, mais ça existe. Et ils continuent à payer un certain nombre de choses. Ils sont visibles. Donc j'ai commencé à étudier ça en ayant recours aux archives notariées. C'est des fonds qui sont un peu dispersés. Il y a donc une dizaine de gestionnaires, en gros. Et dans les années 1780, on a un budget, disons, des capitaux qui approchent les 2 millions de livres, ce qui est une somme assez considérable. Ça fait des revenus pour faire, donc, je l'ai dit, de la presse, pour verser des pensions à des chômeurs, en réalité, des clercs au chômage, entretien des petites écoles. Il manque un peu d'argent, hein, c'est pour ça que j'ai dit 2 millions en gros, mais il n'y a pas tout. Ça, c'était la première étape. Et dans un deuxième temps, j'ai voulu essayer de comprendre comment cet appareil militant, dont on pouvait en gros reconstituer la structure, s'articulait avec la sociologie parisienne. Parce que il me semblait quand même, à la fin de cette étude, qui était donc ma thèse d'école des chartes, une sorte de gros DEA. Non, c'est vrai, c'est un gros DEA. Il y avait un phénomène curieux. C'est-à-dire que dans la gestion de cette caisse plus ou moins secrète, n'apparaissaient pas très très peu les parlementaires. On avait des avocats, essentiellement des avocats, quelques clercs, puis quelques personnages un peu excentriques par rapport à ça. Et il me semblait également qu'on ne pouvait pas simplement se contenter de l'explication suivante. Les avocats, c'est jamais qu'une émanation du monde parlementaire, donc c'est la même chose. Ça me semblait assez curieux de ne pas voir intervenir les principaux leaders du Parlement, ou très très peu en fait. Et donc, j'ai proposé de reconstruire, disons, l'univers social d'où venaient ces gestionnaires. De quelle famille ils sortaient, de quel milieu, à quoi ça pouvait bien ressembler un janséniste dans la vie quotidienne. Et donc, j'en ai... en fait, j'ai travaillé à reconstruire un certain nombre de familles, d'où étaient issus ces gens, et à fouiller également un petit peu du côté des conflits à l'échelle paroissiale, à l'échelle des corporations, tout un tas de disons, de structures du quotidien qui font la vie ordinaire de Paris à cette époque-là. Et il est apparu une chose relativement intéressante, c'est que les principaux soutiens, c'est-à-dire les gens qui font vivre cette caisse, ou qui sont prêts à aussi bien verser de l'argent qu'à le gérer, qu'à entreprendre un certain nombre d'actions juridiques ou autres pour la faire vivre, c'est des gens qui viennent du monde de la marchandise, mais de la marchandise, plutôt la haute marchandise d'une certaine façon, ce qu'on appelle en gros à Paris les six corps, c'est-à-dire les six principales corporations marchandes, qui ont réussi, au cours d'une longue histoire, à obtenir un certain nombre de privilèges, et qui en gros représentent, ont vocation dans leur esprit, et un peu au départ dans celui de la monarchie aussi, à représenter la ville. Ils font très nettement concurrence à l'hôtel de ville, qui est une structure politique à peu près démonétisée au XVIIIe, en gros c'est une administration royale. Effectivement, donc de toute façon c'est les six corps qui contrôlent le recrutement à l'hôtel de ville, et également tout aussi intéressant, en gros les six corps imposent les normes qui président au recrutement des marguilliers des paroisses et de tout un tas d'autres institutions, hôpitaux, compagnies de charité, tout ce tissu, on va dire, associatif parisien. La plupart donc de mes gestionnaires ou des familles de ces gestionnaires venaient de ce monde-là. Un portrait d'un de ces couples, c'est un marchand drapier avec sa femme, leurs deux enfants. Donc on est en pleine ambiance rousseauiste. Et pourtant, encore une fois, l'individu que vous avez là est tout à fait représentatif de ce que c'est que la militance des laïcs jansénistes. Il héberge des clercs appelants. Il confie ses enfants à des clercs appelants comme une sorte de précepteur. Il a des procès avec l'archevêque. Bon, je crois qu'il y a un procès foncier, ça, bon, pourquoi pas. Mais il a un procès parce qu'il a soutenu la cause d'un pauvre ecclésiastique que l'archevêque a voulu renvoyer, et donc trouver une bonne œuvre. Il écrit dans Les Nouvelles Ecclésiastiques, 89, 90, il l'écrit lui-même. Visiblement, il a une montagne de papiers pieux qui sont brûlés en 93 au moment où il est exécuté. Pour un prétexte pas clair du tout. Mais visiblement, Fouquier-Tinville le déteste. Mais c'est une vraie notabilité parisienne. C'est quelqu'un qui est connu, reconnu, qui fréquente la cour, parce que comme il a été grand garde de sa corporation, grand garde des drapiers, en gros, c'est l'équivalent du chef du tribunal de commerce. C'est des postes qui sont assez souvent liés. Il est allé assez régulièrement à Versailles pour plaider, bon, rarement auprès du roi, plutôt auprès du contrôleur général ou d'un secrétaire d'État, la cause des marchands parisiens. Donc c'est quelqu'un qui est relativement connu et dont par ailleurs le jansénisme est tout aussi notoire. Le système que j'ai pu reconstruire marche jusque vers 1770. On a donc un investissement assez massif des élites marchandes dans la défense des clercs jansénistes. Alors, deux questions. Pourquoi et plus précisément dans ce cadre de séminaire, est-ce que ça peut s'interpréter, qu'est-ce que c'est comme type de révolte? Alors, je vais vous proposer trois formes d'explication possibles, enfin, ou plutôt trois thématiques dans lesquelles on pourrait envisager cette notion de révolte. Une thématique strictement théologique, puisqu'après tout, le jansénisme est la plupart du temps présenté comme un courant théologique, donc on va essayer de voir ce que ça peut recouvrir. Deuxièmement, une résistance laïque contre l'autorité cléricale. Et puis en troisième point, on va essayer de voir si, par quelle médiation cette fronde religieuse au départ trouve des résonances dans l'ordre politique. C'est-à-dire en quoi cette révolte au nom de la foi et correspond bien à une revendication dans l'ordre du gouvernement du royaume. Si on prend le premier point d'un point de vue théologique, on a quand même là assurément un des moteurs de l'entrée en militantisme de ces familles bourgeoises. C'est pas un phénomène de continuité, c'est-à-dire que globalement, les gens qui militent pour le jansénisme au XVIIIe siècle n'ont rien à voir avec Port-Royal du XVIIe siècle. Il y a une solution de continuité à peu près complète du point de vue des familles et du point de vue des univers sociaux. Il y a quelques bourgeois qui tournent autour de Port-Royal, enfin quelques marchands qui tournent autour de Port-Royal au XVIIe siècle. En gros, c'est tous des ruminés. Les miens, pour parler comme ça, c'est des gens qui font plutôt de bonnes affaires. Et par ailleurs, il y a très très peu de raccords. Il y en a, mais très peu. Donc, la principale motivation, une des principales motivations, me semble-t-il, c'est d'abord les miracles du diacre Paris. C'est le fils d'un conseiller au Parlement qui décide d'opérer une sorte de grand bond et de devenir prêtre ouvrier, pour parler avec des cadres au XXe siècle. Mais il y a un côté comme ça, quand même. Et donc, de partager la vie des artisans d'un faubourg parisien, faubourg Saint-Médard, au bas de la montagne Sainte-Geneviève. Il choisit d'apprendre à travailler sur un métier pour faire des bas et des bonnets. Il se trouve que ce personnage-là, qui meurt en 1727, est très vite récupéré par le monde janséniste et présenté comme un des leurs. Alors, moi, je trouve que ça pose un problème, finalement, parce que ce que pense le diacre Paris, on n'en sait pas grand-chose. On a un pauvre morceau de manuscrit qui traîne dans la bibliothèque de Port-Royal, au coffre, et je crois que personne ne l'a jamais regardé. Enfin, en tout état de cause, le personnage est très vite récupéré par le courant janséniste. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de miracles qui se produisent autour de son corps, donc, dès sa mort, et ensuite dans le cimetière de Saint-Médard, où il est enterré. Au départ, fréquentation populaire de la tombe d'une sorte de personnage mort en odeur de sainteté, un pauvre clerc, et on apprend en plus qu'il est fils d'un conseiller au Parlement, là ça devient très intéressant, qui se met à faire des miracles. Donc fréquentation populaire au départ, des gens du faubourg, et puis peu à peu, ça concentre, ça attire, disons, ces manifestations miraculeuses, des guérisons essentiellement. Hein. Ça attire un peu des représentants de toutes les catégories sociales, jusque-là, la princesse de Conti, qui vient soit par dévotion, soit par curiosité, évidemment. Il y a un peu des deux. Mais donc le personnage est récupéré par le monde janséniste et donc présenté comme l'intervention divine qui justifie la cause des appelants. Si Dieu fait des miracles par l'intermédiaire d'un appelant, c'est que la cause des appelants est juste. Et effectivement, en face, ils n'ont pas grand-chose à répliquer. C'est-à-dire que les jésuites ne font pas de miracles. Là, il y a quand même quelque chose qui, je crois, échappe à toute explication plus ou moins rationnelle. C'est que ces miracles séduisent. Mais ils séduisent vraiment dans une une grande profondeur sociologique, le monde populaire et le monde marchand. Je trouve que c'est très bien. Alors, à quoi on voit ça? Tout simplement parce qu'on a des dossiers constitués autour de ces miracles, pour ensuite aller, des dossiers à caractère juridique, pour ensuite aller plaider la cause du diacre Paris à l'évêché, puis à Rome, pour le faire canoniser, non, parce que c'est un vrai saint quand même. Et donc, un certain nombre d'individus, un conseiller au Parlement et puis des juristes, rassemblent des pièces de procédure pour ça. C'est quoi? C'est des dépositions de témoins, les dépositions des miraculés, des certificats de chirurgiens, en particulier les oculistes, qui certifient qu'il y a 2 ans, une telle est venue en consultation et qu'effectivement elle était aveugle, elle n'a rien pu faire, et qu'aujourd'hui, bah, elle voit. Donc ces dossiers, en gros, des solides, j'entends solide, je ne dis pas que c'est vrai, je dis que solide, c'est qu'il y a un certain nombre de pièces, avec des prises de position et des témoignages. On en a à peu près 100. Donc les miraculés, c'est essentiellement des femmes, et souvent d'un milieu, disons, assez modeste. C'est le monde domestique, artisanat, petit commerce. Donc a priori, là, on ne voit pas vraiment la grosse marchandise. La grosse marchandise, elle intervient dans les témoignages qui de gens qui ont assisté au miracle ou qui certifient qu'ils connaissaient la personne avant et après. Là, on voit vraiment apparaître des gens issus du monde des six corps, une grosse centaine. Un certain nombre de ces actes autour de certifications de miracles ont été publiés. Donc vous trouvez toutes sortes de pièces. Hein. Les plus intéressantes, c'est les permis de mendier. Donc des autorisations délivrées à des gens pour s'installer à tel ou tel endroit de l'église, accordées par les marguilliers, parce qu'il y a la cause indiquée, une telle est aveugle. Donc ça, c'est pratique. On peut savoir aussi que les marguilliers répartissent les mendiants dans l'espace de l'église. Bref, et donc les marchands arrivent au niveau du témoignage et de la certification. Alors, qu'est-ce que ça engage? En réalité, c'est pas très dangereux. C'est-à-dire que les miracles du diacre Paris sont évidemment très mal vus par l'autorité ecclésiastique, pas très bien vus par la police et la monarchie. Je dis pas très bien parce que ça a l'air de dépendre des commissaires et des inspecteurs. Il y a quand même quelques inspecteurs de police qui sont miraculés ou qui ont des proches miraculés. S'engager en certifiant un miracle, c'est-à-dire attester qu'il a vraiment eu lieu, est-ce que c'est dangereux? Pas vraiment, mais on a un certain nombre de traces de gens qui n'osent pas témoigner de ce qu'ils pensent. Donc, j'ai trouvé dans un testament un avocat qui signale que toute sa vie, il a dû taire qu'il était pour le jansénisme, pour la forme extrême qu'on appelle les convulsions, et qu'il le regrette très fort. Bon, il le dit que dans son testament, un acte potentiellement à caractère public. Mais donc, tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui croient la véracité des miracles, ne s'engagent pas à témoigner. De mon point de vue, ça me paraît assez significatif que tout d'un coup, non pas parmi les miraculés, mais parmi les témoins, on ait l'arrivée de dizaines et de dizaines de marchands. Donc, je n'ai pas d'explication rationnelle à proposer. Sinon, ce n'est pas très rationnel, vous me direz, l'explication du sevrage. C'est-à-dire qu'en gros, Paris a été privé de miracles solides depuis plusieurs dizaines d'années et qu'ils sont d'une certaine façon un peu en manque. Ils sont en manque pourquoi? Parce que, vous le savez, la réforme catholique est extrêmement méfiante, et surtout dans sa version gallicano-monarchique, extrêmement méfiante envers le miracle. Donc, on y va doucement, on se méfie. Et là, tout d'un coup, il y a une débauche de miracles. C'est-à-dire, il y en a 200 en 10 ans. Je pense qu'ils sont très contents. Et ça déclenche, en fait, toute une circulation de bouts de reliques, enfin de reliques, puis de bouts de reliques, parce qu'elles sont partagées, des morceaux du bois, du lit du diacre Paris, des bonnets du diacre Paris, de la terre, du tombeau. Toute une économie donc de la circulation non officielle de la relique. Il n'y a pas de marché véritablement à proprement parler, mais qu'on retrouve comme ça au hasard des testaments, des inventaires, des déclarations. Donc vraiment une sorte d'immanence, quoi, de sacré immanent qui va réinvestir ou qui va en tout cas investir un certain nombre de familles marchandes. À côté de ça, les thèmes classiquement invoqués pour définir le jansénisme, la rigueur morale. L'absence de dépenses, ne riez pas, le statut de l'élection, on est différence entre, en gros, entre les élus, ceux qui bénéficient de la grâce, et tous les autres, les réprouvés, très forte, ça me paraît assez mineur. Non pas qu'on ne les retrouve pas, en particulier la défense du statut d'élu est assez fréquente. Il y a pas mal de gens dans ce monde des militants jansénistes qui ont l'air de penser qu'ils font partie du peuple des élus, tous les autres sont des réprouvés. Alors, les autres, on ne sait pas ce que c'est. Personne, ou très peu de gens s'engagent à fournir des estimations. J'ai une femme, un peu, elle est un peu folle, hein. Bien dire, c'est une convulsionnaire, je vais expliquer, je vais revenir là-dessus tout de suite, qui explique qu'en gros, il y a un quart de l'humanité qui sera sauvé, tous les autres sont perdus. Mais il y a un sentiment assez fort qui s'exprime à l'occasion dans les testaments ou dans les récits de conversion. Ça, c'est un grand classique, visiblement, de ces familles jansénistes. C'est des gens qui, vous l'avez vu, sont tout à fait connectés avec les tentations culturelles du siècle. Je vous renvoie au portrait des quatre mères, où vraiment, c'est l'ambiance à la Rousseau. Donc, il y a un certain nombre de fils de famille qui connaissent, dans leurs jeunes années, autour de la vingtaine, la tentation, ce que j'appellerais la tentation des Lumières. C'est-à-dire, c'est des gens qui se mettent à fréquenter les réseaux savants, les réseaux académiques, et qui ont une crise de foi. Ils ne croient plus. Et systématiquement, enfin systématiquement non, mais pour ceux dont on a des récits, il y en a quand même pas mal, un épisode intervient où tout d'un coup ils reviennent à la foi de leurs ancêtres, et c'est très très lié, voilà, leurs ancêtres, c'est-à-dire c'est leurs parents en réalité, hein, c'est très lié à une prise de conscience qu'ils font partie du monde des élus. Donc, dans tout ce qui est correspondance entre eux, c'est toujours les mêmes termes qui reviennent, nous sommes une communauté d'élus, tout ça. Alors, pourquoi j'y attache pas trop d'importance non plus? C'est parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde des anti-jansénistes, il y a exactement la même chose. Dans la correspondance donc d'un prêtre qui est donc vraiment anti-janséniste, on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il parle de ses parents et il a l'impression de vivre exactement dans le même univers. C'est parallèle, ils sont tous élus, ils subissent tous la persécution des jansénistes, mais ils finiront tous au paradis. Bon. Le statut de la grâce, en réalité, ils en parlent très peu. Alors quand je dis « ils », dans quoi ils parlent? Les testaments, les lettres, d'un certain nombre de correspondances privées, des récits qu'ils s'échangent, Des biographies édifiantes, ce genre de choses. La grâce intervient très peu, finalement. Donc la partie strictement théologique est relativement minorée. En fait, ce qui ressort, à part les miracles, en gros, c'est une certaine vision de l'Église. Là, quand même, d'un strict point de vue théologique, j'ai l'impression que ça a pris. Alors, pourquoi ? L'appel au concile, donc le refus de la bulle unigénitus, ça reposait essentiellement sur la considération que le concile de l'Église universelle est supérieur au pape, ce qui est une vision somme toute assez classique. S'y ajoute dans ce vaste courant janséniste un certain nombre de tentations, de courants qui visent à réévaluer la place des prêtres, des simples curés au sein de l'Église, et parfois à réévaluer la place des laïcs dans l'Église. Alors, c'est particulièrement vrai chez ceux qu'on appelle les convulsionnaires. Les convulsionnaires, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui s'inscrivent dans la filiation des miracles du diacre Paris, mais qui qui connaissent la manifestation divine, non pas par une guérison, mais par des tortures infligées au corps de prophètes qui délivrent des discours, lesquels prophètes sont évidemment inspirés par Dieu et ne ressentent pas la douleur. Donc, il y a cette partie donc un peu gore des convulsions dites secouristes, où effectivement on tape, on transperce, on égorge les prophètes qui ne meurent pas, enfin encore que il y a un calouche. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les discours que ces gens-là tiennent. Il y en a des milliers de pages en réalité dans la plupart des bibliothèques publiques. C'est un phénomène extrêmement répandu. Surtout le discours prophétique, je pense. Et dans ce cas-là, ça renvoie, à mon avis, à quelque chose du même ordre que l'inspiration, que les miracles, c'est-à-dire l'investissement du sacré au quotidien. Oui, et donc ces convulsionnaires, généralement, défendent une structure où c'est carrément la place des laïcs dans l'Église qui est mise en avant. Et ça ressort pas mal. C'est-à-dire que je suis sous la plume de beaucoup de laïcs, soit dans les testaments, où on explique carrément que... soit dans les avertissements adressés aux enfants, ce genre de choses, tendent à souligner l'éminente dignité des laïcs, surtout quand les clercs font n'importe quoi, sous-entendu les clercs anti-jansénistes, que donc les laïcs doivent pouvoir s'en passer, au moins arriver à faire des choses sans eux. Et de fait, par exemple, la boîte à Perrette, c'est un organe qui, au départ, est en partie fondé par des clercs, et qui très rapidement passe aux mains des laïcs. d'une certaine façon, ça fonctionne un peu comme l'idéal janséniste dans l'Église, c'est-à-dire que c'est essentiellement les laïcs qui s'occupent des tâches ordinaires, puis il reste quelques clercs, en particulier des prêtres, pour accomplir le sacrifice de la messe et présider au sacrement. D'un point de vue théologique, d'une certaine façon, il y a bien une révolte contre le refus de reconnaître la véracité des miracles du diacre Paris et contre un certain nombre de dérives cléricales dans l'Église. C'est sur ce deuxième point que je voudrais attirer plus fortement l'attention. La militance janséniste correspond bien quand même à une forme de revendication et de contestation anticléricale. Alors, c'était pas, évidemment pas gagné au départ, mais ça me semble fortement déterminé en fait par un changement sociologique au sein du clergé parisien. Début du 18e, à quoi ça ressemble ? Les familles des grands notables parisiens, grands marchands pour l'essentiel, notaires, avocats, ont des parents dans le clergé, aussi bien hommes que femmes, c'est-à-dire qu'il y a des religieuses, mais il y a également des curés, pas très fréquents, mais des prêtres habitués évidemment, des chanoines à Paris, et puis des gens qui sont placés dans des bénéfices, il y en a partout dans Paris, en fait, des petits trucs intéressants. Mais en gros, au début du XVIIIe siècle, on a une symbiose qui est à la fois familiale et sociale entre l'élite du monde clérical et ses familles marchandes. Pourquoi symbiose sociale ? Parce qu'en gros, quand on regarde l'origine des curés, c'est des gens tout à fait respectables, soit des nobles, soit des bons bourgeois, pour l'essentiel, qui ont une pratique administrative de leur paroisse qui est très proche des laïcs, des marguilliers qui gèrent la partie, une partie de la paroisse. Globalement, ces gens-là s'entendent bien. Qu'est-ce qui change au cours du siècle ? D'abord, ce clergé qui a pris parti pour le jansénisme, disparaît peu à peu, soit parce qu'il est viré, tout simplement par les autorités épiscopales, soit parce qu'il meurt, pardon, et il est peu à peu remplacé, disons, par des clercs d'une origine sociale plus modeste, beaucoup moins proche des grandes familles parisiennes. Qu'est-ce qui cloche également là-dedans ? Tout simplement le fait que ceux qui sont chassés, alors il y a plusieurs façons d'être chassés, pour la plupart c'est simplement qu'on les prive de carrière, sont vraiment des fils de famille, c'est-à-dire des enfants de grands marchands qui en gros pouvaient raisonnablement aspirer à devenir chanoine, vicaire général, pourquoi pas, ça s'est vu encore au début du 18e. Bon, pas trop évêque, parce que ça, c'est disons, les charges d'évêque sont squattées par la noblesse, voire la haute noblesse. Donc, il restait quand même un espoir de carrière. Et le fait que ces clercs aient pris parti pour le jansénisme, ça va progressivement leur fermer la plupart des portes. Eh bien, soit ils trouvent un évêque sympathique qui va leur donner une paroisse ou une charge dans son chapitre. C'est le cas, par exemple, à Auxerre. Où Monseigneur de Quélus, qui est le dernier prélat à Plan, en gros, fait venir à lui tous les Parisiens, plein de Parisiens sans poste. Mais il n'a pas grand-chose à leur proposer, parce que le nombre de paroisses à Auxerre, même dans la ville, il n'y en a pas beaucoup. Le nombre de places au chapitre, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en gros, il reste les campagnes d'Auxerre. Et le choc a l'air rude, parce que, en gros, c'est clair qu'ils s'exilent de Paris. C'est des gens qui sont pour la plupart docteurs en théologie. Et donc, ils se retrouvent simples curés de campagne, avec, disons, un public qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Bon. Pourquoi pas ? Et puis, il y en a d'autres qui décident, parce que ça serait vraiment trop déchoir que d'accepter une paroisse comme Coulanges-Lavineuse, par exemple, de rester à Paris sans poste. Ils vivent quoi ? Ils vivent de leur patrimoine, qui est le plus souvent conséquent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font confesseur plus ou moins clandestin. Ils vivent chez leurs parents. Donc dans les hôtels familiaux, au-dessus de la boutique en gros, tout le monde sait qu'ils sont là, ils consultent, ils donnent des conseils, et de temps en temps ils se livrent à des charges d'éducation. C'est un moyen de fortifier sa réputation. Vous voyez qu'après vous êtes vénéré comme un saint après votre mort. On fait courir donc des petites gravures ça circule ensuite, avec des, accompagné de sentences, de maximes. Tout le monde les recopie derrière son propre exemplaire de gravure. Ils font ça, mais ils ne font pas que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que, d'une certaine façon, on va s'exprimer à travers eux et leurs parents tout le ressentiment des élites marchandes contre ce nouveau clergé qu'on pourrait qualifier d'intrus. Donc la situation est la suivante. Vous avez des paroisses où les laïcs, donc les gros marchands, tiennent les charges de marguilier, c'est-à-dire qu'ils administrent en gros le budget de la paroisse, le budget de la charité, tout ce qui va aux pauvres, tout ce qui sert à entretenir le bâtiment, bon, tout un tas de rôles relativement importants. Par ailleurs, les marguiliers contrôlent également un certain nombre de postes et de charges ecclésiastiques pour tout ce qui concerne le maniement d'argent. Par exemple, le clerc qui tient la sacristie, comme c'est du matériel qui appartient à la paroisse, les marguiliers ont un droit de regard, c'est eux qui nomment en fait le clerc qui va s'occuper de la sacristie. C'est eux qui nomment également le clerc qui tient les registres paroissiaux. En face, donc un clerc qui est de plus en plus lié à l'archevêque, qui n'est pas de la paroisse, qui n'est pas parisien, et qui est généralement pas du même milieu social que les gens avec qui il est amené à travailler au quotidien. Schématiquement, donc, ces gros marchands se retrouvent placés face à des fils de paysans, quoi. J'exagère, mais c'est un peu le sentiment qu'ils ont. Ça leur plaît pas du tout. Et en plus, ces marguiliers, ces gros marchands, développent donc toute une sorte de paroisse clandestine autour de la paroisse réelle. Alors, c'est clandestin, d'une certaine façon, non, parce que c'est en grande partie public. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont chez eux le précepteur de leurs enfants qui sert de directeur de conscience à tout un tas de gens qui viennent voir ce directeur de conscience chez eux. Ils ouvrent des petites écoles qui sont plus ou moins pas contrôlées par la paroisse. Ils sont contrôlées par les marguiliers, mais pas par le curé. J'ai l'exemple d'un tailleur qui a visiblement été élevé à l'hôpital général, qui a donc sa boutique de tailleur, qui ne marche pas du tout. Il a plein de dettes, mais ce n'est pas grave parce que donc ces gens-là le financent. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne réclament pas leurs dettes. Ils lui donnent du travail, et puis... ils donnent du travail. C'est-à-dire qu'ils avancent en fait la matière première, ils avancent les étoffes, le tailleur les fait et vend les vêtements. Ils ne réclament jamais leur dû. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce personnage-là abrite un ecclésiastique janséniste et que cet ecclésiastique janséniste fait des catéchismes gratuits pour les enfants pauvres de la paroisse. Et donc en gros, on a une sorte de clone de la petite école paroissiale, sauf que cette fois-ci, il n'y a absolument aucun contrôle clérical. C'est chez les laïcs, tout est contrôlé par les laïcs, et tout est contrôlé, en somme, par ce monde-là. On en a un exemple extrêmement parlant pour la plus riche des paroisses parisiennes. Enfin, c'est vraiment la paroisse du Grand Négoce, c'est Saint-Germain-l'Auxerrois, donc juste à côté du Louvre, où, en fait, les curés se succèdent. Donc au début du 18e, c'est un curé fort sympathique, très janséniste, qui a affiché chez lui tout un tas de choses, dont le portrait de l'archevêque, mais qui déteste évidemment, mais oui, il joue au flèche avec, il l'a entouré de têtes grotesques. Ça me paraît très très clair. Le suivant ne les embête pas parce qu'en réalité c'est un banquier. Oui, c'est un curé banquier qui précise bien dans son testament qu'il ne faut surtout pas vendre, enfin il ne faut surtout pas organiser de vente de ses meubles à sa mort, parce qu'il y a trop de choses qui n'ont rien à voir avec le patrimoine d'un curé. Effectivement, il y a des dizaines de tableaux, enfin bon. Et donc celui-là, il ne les embête pas trop, les marguiliers, ils sont bien avec les marguiliers. Le troisième est un gars beaucoup plus troublant parce que c'est précisément quelqu'un qui vient d'un milieu social modeste. En plus, ça a l'air d'être le fils d'un protestant converti. Alors, il n'est pas janséniste, mais il n'est pas très méchant. C'est-à-dire qu'il ne recherche pas beaucoup d'ennuis aux jansénistes. Néanmoins, il est tellement d'un niveau social médiocre et il tient tellement à sa dignité cléricale, et donc il tient tellement à administrer sa paroisse, que en gros, on le laisse rien faire. Les legs faits par les grands notables de la paroisse aux pauvres, au début, 18e jusque vers 1750, c'est totalement indifférencié. C'est-à-dire que je lègue à la paroisse, machin, pour les pauvres. À partir de 1750, il faut préciser désormais, si cet argent est à la paroisse, c'est-à-dire qu'elle appartient à la paroisse et donc elle est gérée par les marguiliers, il est géré par les marguiliers, ou s'il est pour les pauvres, par le curé. Parce que le curé revendique de pouvoir gérer lui-même l'argent de la paroisse. C'est des budgets assez considérables, c'est plus de 100 000 livres par an quand même. Et peu à peu, en fait, on voit très bien à la fin de son mandat, donc à la fin du 1780, le malheureux curé Chapoux, Donc, pas, encore une fois, pas un anti-janséniste notoire, mais qui ne fait pas partie du monde de ces grands notables, eh ben, il gère pas plus d'argent qu'au début de son mandat. C'est-à-dire qu'en gros, les laïcs ont obtenu de garder la main sur tout l'argent charitable de la paroisse, pour l'essentiel. Et Chapeau se retrouve, donc, puisque tel est son nom, à gérer quelques centaines de livres uniquement. Bon, ça se reproduit à différentes échelles dans l'ensemble des paroisses parisiennes. En gros, les laïcs qui dirigent la paroisse, la partie financière, tentent de consolider leur position et de faire que l'ensemble des legs aillent sur des caisses gérées par eux et non pas gérées par un curé qui est de moins en moins proche d'eux. Alors, cette hostilité, donc, d'une certaine façon, au nouveau clergé qui se met en place dans les paroisses parisiennes, se double d'une hostilité viscérale envers l'archevêque. Alors lui, il n'a pas de chance. Pourquoi? Parce que, en gros, il est vu comme un despote qui tente de faire régner la dictature chez les curés et qui, en plus, est un incrédule. L'équation est assez tordue, mais elle se défend. Pourquoi ce refus de l'archevêque? D'abord parce qu'il y a un mouvement qui n'est pas propre au diocèse de Paris, hein, qui concerne l'ensemble du clergé du royaume, qui voit peu à peu les évêques arriver à reprendre en main une bonne partie des nominations sur les bénéfices. Alors, c'est plus ou moins fort selon les diocèses, mais à Paris c'est pas mal. C'est-à-dire que l'archevêque prend conscience des moyens juridiques dont il dispose pour arriver à choisir les titulaires des cures. Ça doit indisposer pas mal de monde, dont la plupart des gens qui autrefois avaient un droit de présentation et qui désormais ne l'exercent plus que très difficilement. Comme l'archevêque en profite pour nommer des gens qui lui sont dévoués, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas parisiens, ça choque beaucoup donc cette bourgeoisie. Par ailleurs, l'archevêque ne nomme pas que les curés. En réalité, c'est lui qui fait les vicaires des curés, et voire qui de temps en temps nomme de simples prêtres habitués. Et donc il peut imposer n'importe qui, en gros. Ça, c'est un premier point de friction. Le deuxième point de friction, et c'est là que l'archevêque est vraiment un incrédule, c'est qu'il ne croit pas au miracle. Alors, il ne croit pas au miracle du diacre Paris, ça on peut l'admettre, mais surtout, il ne croit pas, disent les jansénistes, au miracle du Saint-Sacrement. Comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? Tout simplement parce qu'à partir des années 1750, comme en gros l'intercession du diacre Paris ça marche plus, la relation de cause à effet est de moins. Je suis pas sûr qu'ils raisonnent comme ça, mais les jansénistes soutiennent tout un tas de miracles arrivés par l'intercession du Saint-Sacrement. Bon, l'avantage c'est que a priori le Saint-Sacrement c'est pas polémique, c'est pas marqué janséniste. Ils vont engager, alors ils, un certain nombre de gros marchands, de clercs jansénistes et de notaires, vont engager toute une campagne pour défendre ces miracles du Saint-Sacrement. Donc ils montent le dossier, ils font le récit, ils apportent des témoignages, et ils déposent le témoignage chez quelqu'un de confiance, de temps en temps chez un notaire, de temps en temps chez un simple particulier, et ils le publient. C'est-à-dire qu'ils publient le récit du miracle avec toutes les preuves. Et ils expliquent, vous voyez bien, l'archevêque ne veut pas reconnaître ce miracle. Alors, pourquoi ça? Pourquoi l'archevêque ne veut pas? Parce que, en gros, il s'est fait griller la priorité par les jansénistes. Il voit que le dossier est donc piégé. Et que si on lui demande de reconnaître ce miracle-là, ça veut dire qu'après, on va lui demander de reconnaître la véracité des miracles du diacre Paris. C'est un truc sans fin. Et puis parce que, de temps en temps, les miraculés de ces miracles du Saint-Sacrement sont assez proches des milieux jansénistes. Donc l'archevêque doit faire sa petite enquête avant, quand même, j'imagine. Et donc, toute cette campagne qui dure en gros une quinzaine d'années, qui comprend plusieurs dizaines de miracles, est assez forte, même si, évidemment, elle ne fait pas la une de la presse des Lumières. Mais elle est visiblement très discutée, et elle sert, pour le monde janséniste, de repoussoir. C'est-à-dire que c'est une façon de prouver que l'archevêque est vraiment un mauvais archevêque, parce que d'une part c'est un despote et d'autre part il est même pas croyant. C'est un discours qui porte, hein. Visiblement ça a une certaine efficacité pour montrer qu'en fait les laïcs et le dernier carré des jansénistes sont du côté de la vérité. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant passer d'une révolte, d'une contestation du moins, d'un pouvoir clérical à, disons, une révolte qui contiendrait un message politique? C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Il y a deux choses, disons, il y a deux thématiques qu'on peut aborder. C'est d'abord le problème de la querelle des refus de sacrement, je vais revenir pour expliquer ce que c'est, et où là sont vraiment échangés des arguments autour de ce comment s'articulent, disons, les droits des croyants, des individus, des sujets vis-à-vis des autorités. Et dans un deuxième temps, là on est moins dans l'esprit des acteurs, on est plus dans une réflexion d'en haut sur, disons, le fonctionnement corporatif et corporatiste de cette société. Alors, la querelle des refus de sacrement, qu'est-ce que c'est? Vision traditionnelle des choses, qui évidemment ça part de vérité. Les derniers jansénistes, quand ils meurent, et qu'ils ne veulent pas se rétracter, et qu'ils ont affaire à un clerc particulièrement intransigeant, sont privés des derniers sacrements, donc communion, extrême onction, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, ils ne veulent pas reconnaître l'autorité de la bulle. Ces conflits, en gros, existent entre 1700, à Paris, entre 1750 et 1775. Il y en a en province aussi, hein, mais je ne m'intéresse qu'au cas parisien. Donc, en gros, ultime marque de persécution envers les derniers jansénistes. On ne leur fera même pas ce cadeau de les laisser mourir tranquilles. On va les priver des derniers sacrements, ils n'iront pas au paradis. Enfin, ça. Et voire, parfois, ils n'iront pas en terre chrétienne. Ça, à Paris, ça n'arrive pas. En province, éventuellement. De mon point de vue, ça fonctionne un peu différemment. C'est-à-dire que les refus de sacrements sont en réalité des dispositifs qui visent à piéger les clercs anti-jansénistes en leur... en leur offrant une alternative qui va de toute façon les coincer. Ils ont un mourant ultra-janséniste. On sait que c'est, tout le monde le sait. C'est à la limite, ils mettent des affiches. Hein. Voilà, vous avez un clerc super-janséniste. Il est mourant. Vous l'administrez, tout va bien. Sauf que si le prêtre en question, anti-janséniste, administre la plan, il va se faire tancer par l'archevêque qui l'a nommé. En lui disant, c'est pas pour ça que je vous ai nommé, vous êtes prié de chasser ces hérétiques, et je vous prie de ma confiance, je vous prie de votre charge, enfin bon, bref, plus de carrière non plus. Deuxième solution, il n'administre pas, il fait donc véritablement ce qu'on appelle un refus de sacrement, et il se retrouve avec, sur le dos, une procédure judiciaire, car les Marguilliers, accompagnés d'un certain nombre de militants de la boîte à Perrette, en fait, font fonctionner... un procédé judiciaire assez commun dans la France d'Ancien Régime, qui est le recours aux cours laïques pour juger de problèmes ecclésiastiques, voire de problèmes spirituels. Et donc, moyen très simple, il y a trouble à l'ordre public, ça fait scandale le refus de sacrement, c'est pas normal, donc on va porter plainte, donc le Parlement, généralement, des fois le Châtelet, donc là, une cour de justice nettement inférieure, va délivrer l'ordre, un, d'administrer le mourant, on va trouver un clerc qui accepte, et deux, surtout, généralement, va bannir l'ecclésiastique auteur du refus de sacrement. Et donc, les refus de sacrement, en gros, pour les clercs qui sont placés devant ce problème, c'est soit je trahis l'archevêque qui m'a nommé, et dans ce cas-là, j'ai plus de carrière, mais au moins, je peux rester dans ma part. Enfin, les Marguilliers m'en voudront pas trop, mais je saute, oui. Soit je vais faire un tour de campagne, comme dit une convulsionnaire, qui en gros fait exprès de provoquer un refus de sacrement, en disant je vais faire un tour de campagne à mon curé. Et ça, enfin, ça marche d'ailleurs. Hein. De toute façon, ça marche. C'est ça qui est absolument terrifiant. Alors, généralement, quand on tend quand ce dispositif, ce piège est installé, c'est généralement parce que y a des conflits tellement forts entre les laïcs et le curé en place. Autour plutôt d'enjeux temporels, c'est-à-dire qui va gérer l'argent de la charité, qu'il n'y a plus de négociations possibles, ils n'arrivent plus à s'entendre, et donc la seule solution, c'est de virer le curé. Mais là, pour le coup, c'est vraiment comme ça qu'ils raisonnent. Et donc, virer le curé, c'est pas compliqué. On organise un refus de sacrement, puis on attend de voir ce qui se passe. Bon alors, ça a des effets pervers, évidemment, parce qu'à force, vous finissez par chasser les clercs de la paroisse. Il n'y a plus personne pour célébrer toutes les messes de fondation et tout ça. Ça finit par devenir gênant, c'est certain. Mais d'un strict point de vue temporel, c'est-à-dire pour le problème que c'est censé résoudre, l'argent de charité, c'est parfait. Ça marche. Ça décoince le ça, oui, ça. C'est une bonne solution et c'est pour ça qu'elle est utilisée assez souvent en réalité. Alors, à l'occasion de ces conflits, néanmoins, s'expriment des choses assez intéressantes sur pourquoi on ne peut pas refuser les sacrements aux mourants. Parce que pas non plus d'une évidence absolue, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs théories qui sont avancées, en gros, dès le début de ces affaires, vers 1750. Théorie avancée par des juristes qui sont pour la plupart issus du monde janséniste et très très proches de la bourgeoisie parisienne. En gros, c'est leur gendre. Il y a un argument qui est très peu audible, mais très intéressant, mais néanmoins il n'est pas avancé, c'est celui du droit des croyants. En gros, quelque chose qui serait le droit de la conscience errante. Bon, il se trompe, mais il fait partie de l'église catholique, il est croyant, on ne peut pas lui refuser. Une sorte de droit naturel du croyant au sacrement. Il est catholique, il a le droit au sacrement. Donc ça, c'est avancé dès 1750, mais en fait, c'est très très peu audible. C'est-à-dire qu'il l'avance une fois, puis après, stop, plus jamais. C'est pourtant généralement ce qui est retenu par l'historiographie pour faire des développements sur les rapports entre les refus de sacrement et la capacité à construire un droit individuel. Alors, cette construction-là existe, encore une fois, mais elle est vraiment très très peu avancée. Pourquoi ? Tout simplement, ils préfèrent recourir à des arguments beaucoup plus traditionnels, soit à la jurisprudence qui remonte en gros au XVIe siècle, qui donne au Parlement le droit de casser, il n'y a pas d'autre mot, des sentences d'excommunication. En plus, c'est facile, il n'y a pas d'excommunication à proprement parler. C'est-à-dire que les appelants n'ont pas été formellement excommuniés un à un. À la limite, ils sont excommuniés en gros, en théorie, parce qu'ils ne respectent pas les formules de la bulle. Mais tant qu'il n'y a pas une sentence d'excommunication délivrée nominalement contre chacun, il n'y a pas d'excommunication. Tout court. Donc ça, c'est un argument imparable. Ça marche. Et puis, parce que ça s'appuie sur une théorie qui est communément partagée par les magistrats, qu'ils soient jansénistes ou pas d'ailleurs, par une bonne partie du clergé, qui est qu'en gros, l'appartenance au corps, groupe des sujets du roi, confère un certain nombre de droits et oblige l'Église à respecter un certain nombre de procédures. Et c'est là que c'est intéressant, parce que tout le monde est d'accord sur ce point, c'est-à-dire que les cours laïques peuvent juger de ces problèmes de refus de sacrement. Il y a quelques voix dans le clergé qui ne trouvent pas ça normal, mais en gros, tout le monde l'accepte. Et tout le monde est d'accord aussi que le fait que les refus de sacrement produisent un scandale, un désordre public, ça doit être réparé par les autorités monarchiques, la police, le Parlement, ce que vous voulez, du moins que c'est réparé. Et ça c'est une théorie donc extrêmement efficace qui n'est contestée par personne. Et donc, c'est beaucoup plus avantageux de s'appuyer sur celle-là, qui est recevable partout et qui est difficilement contestable par les anti-appelants, plutôt que d'aller chercher quelque chose qui renvoie au droit de la conscience, au droit individuel. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ça n'existe pas. Il est parfaitement possible qu'un certain nombre soit convaincu que le catholicisme, ça peut vivre sous différentes formes et qu'après tout, pourquoi pas. Bon. Mais ça fonctionne d'autant mieux qu'en réalité, ça fait écho. Cet argument, on est des sujets du prince, les sujets du prince en France ont tel et tel droit, tel et tel privilège, c'est la règle de l'Église de France, c'est la règle du royaume qui s'impose à l'Église de France. C'est parce que en réalité, ça fait écho à l'ensemble du fonctionnement de la société parisienne. On a affaire à une société qui repose très très fortement sur des corps, des appartenances corporatives. Alors, ce qu'on aurait tendance à désigner par le monde professionnel, donc les corporations de métiers, c'est plus que ça. C'est des états sociaux, c'est pas seulement des métiers. Ça emporte avec soi une dignité. Et en particulier, il n'y a pas mieux que les six corps. Et à l'intérieur des six corps, il n'y a pas mieux que les drapiers. Ça, personne n'ira le contester. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce fonctionnement corporatif, il s'étend également à l'appartenance paroissiale. à l'appartenance à différentes compagnies de charité, aux hôpitaux et tout ça. C'est en gros ce qui structure très fortement les carrières de notabilité au sein de cette bourgeoisie. C'est-à-dire, si vous appartenez par exemple au corps de la mercerie, vous pourrez accéder à une charge d'administrateur de l'Hôtel Dieu. Si vous êtes un pelletier, ça va être plus dur, et si vous êtes un marchand de vin, c'est hors de question. Bon, c'est comme ça que cet univers marche, c'est comme ça qu'il résonne, et chaque corps, en gros, dispose de ses privilèges, plus ou moins avantageux, plus ou moins contournés par ses propres membres, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, ça repose sur le privilège. Et me semble-t-il, la clé de voûte de tout ça, d'ailleurs, enfin, il y en a deux. Il y a la justification théorique, c'est la grande chaîne des corps qui relie tous les corps, tous les collectifs de sujets groupés autour d'un certain privilège au roi. Ça, c'est une représentation communément partagée par les élites d'Ancien Régime jusqu'aux années 60-70, en gros. Donc, tout tient à l'état monarchique. Tous les corps tiennent à l'état monarchique et, d'une certaine façon, tous peuvent argumenter sur le fait qu'ils sont dans l'état. Ils ne sont pas la société civile face à l'État, ils font partie de l'État. Parce que le roi leur a donné des privilèges et donc ils font partie de cette grande structure. Alors, cas typique, les juges du tribunal de commerce, ils s'occupent d'affaires commerciales. Bon. Outre que ce sont quasiment que des membres des six corps, c'est surtout qu'ils jugent en robe rouge. Ils ont un habit qui est un habit de juge royal en réalité. Alors que, bon, c'est une construction progressive. Qui les inscrit dans l'ordre des justices ordinaires de l'État. Bon, mais d'une certaine façon, ils résonnent comme ça avec à peu près tout. Même les marguilliers sont capables d'avoir un discours sur le fait que les marguilliers ne représentent pas les paroissiens. Ils sont là parce qu'il y a des charges à remplir qui sont des charges dans l'État. Point. Ils existent de toute éternité. Enfin, à partir du moment où ils ont été créés, ils sont là pour toujours. Donc c'est clairement pas une forme de démocratie. C'est une forme de république où il y a des votes, et où il y a en gros des votes unanimes. Enfin, vous présentez comme ça, parce que ça marche pas toujours. Mais en gros, c'est un truc qui fonctionne sur le consensus. Consensus où le pouvoir est réparti entre les différents individus issus de ces familles. Normalement, il n'y a pas de prééminence donnée par tel ou tel État. Enfin, il n'y a pas de prééminence pour tel ou tel individu. Tous ceux qui font partie de ces groupes, en particulier des drapiers ou des merciers, ont vocation potentiellement à passer par ces carrières. Oui, donc ça c'est la justification théorique, la grande chaîne des corps, et il y a une autre justification qui est qui est plus strictement économique. Le monde du commerce parisien tient, le monde du grand commerce parisien tient en grande partie sur les fournitures à la cour et aux armées. Le textile, l'orfèvrerie, tout ça, en particulier pour tout ce qui est le drapier et mercier, la fourniture des régiments. Ce sont des marchés considérables. Et en gros, le but pour les six corps et pour le corps des drapiers, c'est de maintenir le privilège de fournir les régiments et la cour. Ça marche plus ou moins bien. Mais on a affaire à un monde économique qui est relativement différent, au moins à première vue, du monde économique qu'on décrit traditionnellement pour les ports, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le grand commerce international ou dans l'import-export. Pas tellement d'intérêts coloniaux, enfin, première vue comme ça. C'est vraiment du privilège local qui est exploité localement, bon, quitte à faire venir du drap d'un peu n'importe où, mais ça repose sur ce lien à Versailles, à la cour. Et précisément, ce qui va se passer à partir des années 70, c'est la remise en cause complète de cet univers. Remise en cause théorique extrêmement forte, parce que dans les années 70, Paris connaît donc deux révolutions institutionnelles. D'abord, entre 71 et 74, la suppression du Parlement, la transformation en un autre Parlement, qui est relativement traumatisante, d'une part parce que ça exile beaucoup de magistrats, qui ne sont pas contents d'être exilés, ça perturbe donc les circuits traditionnels de clientèle qui peuvent exister entre la bourgeoisie et le monde de la magistrature, voire des relations de parenté assez fortes, et surtout qui est traumatisant à mon sens, parce que le problème, c'est que ça marche. Disons que le monde ne s'écroule pas parce que le Parlement est renvoyé. Je pense que c'est vraiment un argument très fort, et c'est un problème. C'est-à-dire que la monarchie décide de se passer d'une structure qui la porte, bon, ils font vraiment une révolution, et le pire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout le monde était persuadé que l'empilement des corps et les privilèges acquis, transférés par l'histoire, tout ça, c'était grâce à ça que le royaume tenait, mais tout d'un coup, bah, pof, on peut faire autrement. Deuxième traumatisme qui les concerne plus directement encore, c'est la réforme des corporations sous Turgot. Là, c'est un peu le coup de grâce d'une certaine façon, parce que Turgot vise, disons, la traduction économique, la structuration sociale et économique de la domination marchande. Il éclate tout, plus de privilèges, c'est l'horreur, plus de contrôle, bah, quand même, plus de contrôle des artisans par les marchands. Et donc, ils tentent de réorganiser les corporations sur une toute autre base. Donc, ça sacrifie les six corps, ça c'est sûr. Donc, toute une structure de dignité qui servait, bon, de verrou à la notabilité parisienne saute. Ils menacent même de supprimer le tribunal de commerce. Alors là, c'est l'horreur suprême. Parce qu'en gros, le tribunal de commerce, ça offre aux six corps, qui squattent la plupart des places, la possibilité de trancher sur à peu près tous les litiges commerciaux dans Paris, voire au-delà. Bon, donc il fait plein de menaces et ça marche plus ou moins. C'est-à-dire que de toute façon, les corporations ne seront jamais rétablies dans leur ancien ordre. On a donc là, au cours des années 70, si vous ajoutez à ça en plus, un changement assez net dans la pratique du contrôle général pour ce qui regarde le Conseil. C'est-à-dire que jusqu'à assez tard, le contrôle général, donc les finances de la monarchie, consulte les six corps et les gros marchands parisiens pour obtenir leur avis sur des questions de commerce. Et progressivement, à partir des années 50, et ça devient très net dans les années 60-70, ils délaissent un peu les marchands parisiens, qui sont considérés comme des marchands trop locaux, pour s'en référer exclusivement ou quasi exclusivement à des gens qui ont une vision internationale du commerce, qui ont une expérience d'armateur ou qui sont proches des milieux d'armateurs, enfin, bref, qui peuvent leur tenir un discours beaucoup plus généralisant et beaucoup, beaucoup moins particulariste. On change d'une certaine façon d'un modèle d'analyse économique, ou du moins de gouvernance économique. Ça les vexe profondément, en particulier tout le gang des gros marchands drapiers, qui voient progressivement les faux drapiers installés en leur sein, les banquiers, en particulier les Lecouteux, c'est leurs amis, mais quand même, être de plus en plus écoutés. Alors qu'ils sont banquiers, en vérité ils sont banquiers, et qu'on n'écoute plus du tout les marchands qui servent la monarchie en lui fournissant le meilleur drap possible. Et donc c'est toutes ces évolutions, voire ces révolutions, donc, qui se concentrent dans les années 1770, qui font d'une certaine façon exploser la société parisienne et le jansénisme. Pourquoi ? Parce qu'elles dévalorisent en gros tous ces corps et toutes ces institutions intermédiaires. Bon, alors évidemment, à des degrés divers selon les corps concernés, mais quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, la monarchie fait la démonstration que toute cette accumulation de privilèges, tout ce qu'elle a elle-même créé, toutes ces constructions sociales, c'est du vent, on peut s'en passer, elle veut fonctionner sans. En face, ils ne trouvent rien à répliquer. C'est-à-dire que ils ne trouvent rien à répliquer. C'est pas qu'ils soient d'accord, mais je pense que là, ils n'ont plus d'armes. C'est-à-dire que la seule arme qu'ils avaient jusqu'à présent, c'était ce jansénisme que finalement on peut interpréter comme une sorte de dopant pour s'investir dans les institutions. C'est assez net. Les gens qui occupent des charges de responsabilité, que ce soit dans les paroisses, les compagnies de charité, les corporations, jusque dans la fin des années 1760, c'est des gens qui sont plus ou moins marqués par le jansénisme. Et d'une certaine façon, c'est un peu comme c'est le virus de l'engagement, quoi. Alors ça, on en a une preuve très concrète, vraiment, mais vraiment c'est spectaculaire. C'est une réunion qui est organisée par la police parisienne en 1744 pour une question d'impôt, de taxation des maisons. On cherche des gens qui veulent bien discuter avec l'administration, donc ils sont prêts à perdre du temps, à laisser quelques jours pour causer. Les commissaires de police sélectionnent un certain nombre d'individus et ensuite la lieutenance en prend un sur deux en gros. Les commissaires de police choisissent un nombre effarant de militants jansénistes. Ils ne les choisissent pas pour leur jansénisme, enfin je pense pas. Ils leur choisissent parce que c'est manifestement des gens qui s'engagent dans la vie de la cité, qui font tourner les institutions. Soit comme Marguillier, soit parce que... tout ce que vous voulez, mais ils s'engagent. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner du temps pour la collectivité. Ça les sert aussi, évidemment, hein. Mais c'est des gens engagés. Et la lieutenance de police, où là, c'est beaucoup plus politique comme choix, on élimine assez largement les jansénistes. Là, on conserve quelques-uns quand même, parce qu'il faut bien discuter. Mais donc, c'est vécu, me semble-t-il, non seulement comme une foi, bon alors ça la foi intérieure, on peut en discuter, mais également comme une sorte de foi civique. C'est-à-dire c'est ce qui permet à ces gens de continuer à faire vivre des institutions jusque très tard. Jusqu'en gros au moment dans les années 70 où mais ils s'aperçoivent que ça vaut plus rien. C'est-à-dire que ces institutions ne permettent plus de négocier avec la monarchie un statut, des privilèges, ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça vaut plus rien. Donc à quoi bon maintenir ce type d'engagement? Et d'une certaine façon, tout craque en même temps. Alors, il y a évidemment des exceptions. Mais pour la plupart des familles que j'ai étudiées, la génération qui est adulte au moment de la Révolution, le jansénisme, c'est manifestement déjà un truc très lointain. Et non seulement le jansénisme est devenu lointain, mais en plus l'engagement civique est devenu lointain. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on n'a pas vus dans les compagnies de charité, qu'on n'a pas vus dans les marguillages, qu'on n'a pas vus dans les corporations. Ils sont toujours là, ils sont toujours aussi riches, c'est toujours des notabilités de quartier, mais il n'y a plus d'investissement institutionnel. Le jansénisme s'écroule, de mon point de vue, au même moment que s'effondre l'armature institutionnelle de la bourgeoisie parisienne. Ah, manifestement, le jansénisme avait été, disons, incorporé par cette bourgeoisie comme, disons, comme un habitus normal. Il était ordinaire de se comporter en janséniste, donc de soutenir les appelants, d'insulter l'archevêque quand il passait, enfin pas trop quand même, mais c'est un peu dans cet esprit-là, tout au long de sa carrière. Voilà, mais je m'arrêterai là parce qu'après je vais me raconter n'importe quoi.